départemental, centre départemental de documentation pédagogique. D'accord. Il y a un célèbre philosophe allemand, mathématicien, qui a dit, Hegel pour le nommer, qui dit « Rien ne s'est accompli sans passion ». D'accord. C'est vrai que ceux qui me connaissent, je crois que je suis assez passionné, mais malheureusement aussi je suis bavard, parce que la passion va avec. D'accord. Donc n'hésitez pas de m'interrompre si vous avez besoin. Rapidement, très rapidement, puisqu'effectivement je vous ai laissé des petits fascicules pour montrer un petit peu ce que le CDDP, ou du moins le réseau CERN, peut vous offrir comme service. D'accord. Première chose, le CDDP appartient au réseau national, le réseau donc CERN, qui a plusieurs déclinaisons, le CNDP qui est basé au Futuroscope, le CRDP qui est situé pas très loin, donc rue Sainte-Catherine, juste à côté. Et dans chaque département de France et de Navarre, y compris dans les DOM-TOM, vous avez un CDDP. D'accord. Pour le CDP du 79, on est plutôt axé sur un maillon territorial de plus en plus. Pour deux choses. Premièrement, on est un département dit rural, d'accord, par rapport aux trois autres départements de l'Académie. D'accord. Et on a une spécificité, c'est qu'on a une antenne, un site qui est basé à Bressuire. D'accord. Donc deux sites, un à Niort, un à Bressuire. Chaque CDDP de France a au moins trois pôles. Un pôle documentaire qui regroupe la librairie et la médiathèque. D'accord. Un pôle animation pédagogique, art et culture. Et un pôle pédagogique TIS. D'accord. Je vais très rapidement sur les offres de services du CDDP. Donc notre public est avant tout effectivement les enseignants, premier et second degré, ou tout membre de la communauté éducative, ou même tout autre organisme qui gravite autour du système éducatif. D'accord. Donc l'IFRE en fait partie. Bien sûr. Au niveau pôle documentaire, simplement pour résumer un petit peu sur l'ensemble des missions, il faut savoir que dans le département des Deux-Sèvres, on a mis en place un service de proximité avec des relais qui sont dans les bibliothèques municipales ou dans certains établissements scolaires, d'accord, ou inspections académiques, de façon qu'il y ait une navette hebdomadaire pour déposer des documents, voire d'autres choses, d'autres services. D'accord. On travaille beaucoup avec les bibliothèques municipales. D'accord. Et entre autres, dans le cadre du projet Mon Village Biodiversité, il est clair que c'était un de nos partenaires d'un point de vue de proximité territoriale. Au niveau du pôle art et culture, simplement une petite photo sur un projet qui s'appelle Déclic et des classes. Vous voyez ce qu'on peut faire réaliser à des élèves premier degré sur le traitement de l'image, d'accord, et sur voilà, en classe. Sachant qu'effectivement, un des objectifs de nous au CDDP avec l'équipe et surtout avec Emmanuel Leduc, mon collègue qui est effectivement responsable du pôle art et culture, c'est de donner une dimension culturelle et artistique des TIS et de minimiser au maximum tout ce qui est technique. Donc on verra aussi qu'effectivement, avec le Web 2 ou avec les nouvelles technologies qui sont pas très nouvelles, mais on parlait des tablettes tout à l'heure, c'est, on a de plus en plus cette approche et on fait moins technique et on fait beaucoup plus d'usage. Au niveau du pôle pédagogique TIS, simplement savoir qu'au niveau équipement au CIEP, on est un tout petit centre hein, par rapport aux trois autres centres de l'Académie. On a une salle multimédia où on accueille effectivement les animations, les stages de formation, d'accord, et équipé correctement pour l'instant, même si les stations vont être changées à la rentrée prochaine, puisqu'effectivement, ça vieillit. Et demain, ce qu'on proposera effectivement à notre public, c'est une ticothèque, c'est-à-dire effectivement des ressources matérielles qu'on prêtera aux établissements scolaires ou aux personnes qui ont souscrit à l'offre de service. D'accord. Ça va de la valise de balade aussi, diffusion, jusqu'aux tablettes. D'accord. On pourra prêter aux établissements pour expérience et retour pédagogique. Je continue faire rapide, simplement. Le CDDP aussi met à disposition pour l'ensemble de ses partenaires et publics des espaces et du matériel. Donc là, vous voyez une grande salle. On a une grande salle de réunion qui est en capacité d'accueillir entre 80 et 100 personnes. Et dans cette salle-là, on peut effectivement momentanément l'équiper en visioconférence. D'accord. Et par an, il y a en moyenne 4 visioconférences avec le pont du CRDP de Poitiers sur des thématiques, sur la violence à l'école ou des choses comme ça. D'accord. naturellement, on est, comme le lycée, le LPI, on est sur un réseau très haut débit, puisqu'on est sur le réseau de régional. D'accord. Pour tout vous dire, on a 10 mégabits de débit. Et symétrique dans les deux sens. Donc ça aide bien. Quelles sont mes missions et quelles sont les missions du pôle TIS pour le CDP? La première mission, c'est conseil et expertise. D'accord. Alors, dans le cadre du projet Pratis avec les collectivités, avec le conseil général de Sèvres, c'est par exemple de donner des avis et des études sur l'infrastructure réseau, sur les serveurs, sur l'équipement matériel, sur les logiciels et sur les usages. D'accord. Alors, sur les usages, effectivement, vous avez les blocs pédagogiques, vous avez les solutions de système documentaire BCD, EasyDoc, vous avez le site TV, vous avez eTwinning, vous avez ICAR, le fameux ENT académique, d'accord, pour lequel la région et les lycées vont peut-être prendre une autre solution que ICAR. On n'en sait rien, enfin, on l'appelle d'offre, on ne sait pas trop. Mais bon, si c'est Lily, oui, ça ne sera pas ICAR, voilà. En tout cas, de toute façon, l'idée est là, c'est qu'effectivement, à terme, tous les établissements scolaires du second degré, collège, lycée, auront un outil, un espace numérique de travail. D'accord. Pour ce faire, quand même, les collectivités territoriales doivent participer à la fois sur l'aménagement de leur territoire, sur, effectivement, comme évoquait Christophe, sur la problématique, effectivement, réseau informatique, au sens Internet et infrastructure réseau de leur établissement, de façon qu'on ait des débits acceptables pour mettre en place l'ensemble des services qui gravitent autour de l'ENT. D'accord. Et puis, une autre action que je mets aussi, c'est la promotion du libre, des logiciels libres, gratuits et open source, d'où mes excuses en préambule d'utiliser PowerPoint. Autre mission pour le POLTIS, c'est l'accompagnement aux projets innovants. Il y a quelques années, effectivement, le Deux-Sèvres ont été équipés de systèmes de visio-enseignement dans l'apprentissage des langues auprès de 8 collèges, avec 2 studios, 1 partenaire et 1 à Sauzé-Vaucé. D'accord. Ce système est devenu complètement obsolète puisqu'à l'époque, il utilisait la technologie Numiris. Mais fort de cette expérience-là, effectivement, la visioconférence et le visio-enseignement restent aussi toujours un petit point clé ou quelque chose qui me touche de près au niveau du CDP des Deux-Sèvres. Autre accompagnement, les valises de balado-diffusion. D'accord. Là, c'est intéressant aussi, par exemple, avec mon collègue Emmanuel Leduc, que j'évoquais tout à l'heure, c'est par exemple de détourner les fonctions d'un iPod en tant qu'audio-guide pour une exposition. D'accord. Ça peut être intéressant. Alors, audio guide simplement avec une bande son ou lorsque avec nos iPods qui sont compatibles MP4, de faire aussi la vidéo. D'accord. Voilà des exploitations pédagogiques qu'on peut mener avec nos partenaires ou avec les classes. Autre projet d'accompagnement innovant, c'est de remplacer petit à petit les fameux tableaux blancs interactifs par les nouveaux systèmes qui sont apparus sur le marché depuis 2 ans, les vidéoprojecteurs à ultrafocale courte interactifs. C'est-à-dire que définir ensemble avec le Conseil général des Deux-Sèvres, définir un cahier de charges d'équipement du mur numérique de l'enseignant. C'est-à-dire que doit avoir un enseignant face à son mur comme outil numérique. Donc là, à la place, on met un tableau blanc mat avec une surface non réfléchissante, un VNI, et puis l'audiovisuel autour. Voilà. Donc ça, on accompagne effectivement à la fois les collectivités et effectivement les écoles et les classes. La ville de Niort, pratiquement toutes les écoles de la ville de Niort sont équipées en VNI. Le dernier en date, là, depuis Pâques, c'est les écoles du bassin de la plaine de Courant sont aussi équipées là-dessus, encore proche du Poimine.
On voit bien l'ensemble des équipements dont vous faites bénéficier les établissements. Peut-être on va passer au projet concret de la mission Crozet. Comment ça s'est mis en place dans ce projet Comment vous avez sollicité ces équipements?
C'est démarré simplement d'un point de vue historique par une sollicitation d'Estelle Barbeau, ici présente, du Zoo Odyssée, de dire, voilà, moi j'ai un petit souci, j'aimerais effectivement... avoir un outil qui permet effectivement de communiquer avec les élèves, avec les classes, avec les 4 collèges qui sont dans le projet. D'accord. Et surtout, mon souci, c'est que le vétérinaire du Zoodyssée, Antoine Jouris, qui va partir aux îles Crozet, voudrait communiquer en mode synchrone ou asynchrone avec les élèves qui participent à ce projet-là.
Et peut-être qu'il faut présenter le projet en deux mots. Hein.
Voilà. Le projet en deux mots, c'est effectivement Antoine Jouris, vétérinaire du Zoodyssée, par une campagne de deux mois, c'est ça ? Il est parti, je ne sais plus combien de temps. Trois mois, oui. Aux îles Crozet, étudier effectivement la biodiversité sur ces îles. D'accord ? Et associer effectivement quatre collèges, deux dans le sud de Sèvres et deux dans le nord, autour effectivement de ce projet et de travailler sur les questions environnementales, biodiversité, animale, etc.
Allez-y. Quatre collèges du département des Deux-Sèvres, oui, qui décident de suivre un chercheur qui s'en va à l'autre bout du monde,
voilà,
à un endroit où les communications habituelles ne sont pas possibles. Hein, voilà. Le courrier postal n'arrive que tous les deux mois par le bateau. Et donc,
voilà,
l'usage du numérique.
Donc Estelle est venue me voir, elle me dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, comment on peut fabriquer tout ça. Alors, le premier outil qu'on a utilisé, et pas le blog pédagogique, parce que le blog, on va le voir, le premier outil qu'on a utilisé, c'est les cartes mentales. D'accord ? C'est-à-dire d'avoir un outil qui permet d'avoir une vision globale sur le projet et surtout de jeter les idées comme ça un peu en vrac, d'accord, au départ, parce que c'est vrai que tout était dans la tête d'Estelle, ça c'est clair, mais après, il faut s'organiser, il faut mettre de la logistique derrière, voilà, ok ? Donc, premier outil numérique utilisé et utilisable à la fois en classe et aussi pour les personnes qui organisent des projets, c'est les cartes mentales. D'accord ? Deuxième outil, effectivement, ça a été effectivement la création du blog pédagogique. D'accord ? Donc, l'équipe de la Matisse, qui est hébergée au CRDP de Poitiers pour l'instant, mais pas encore pour longtemps, nous a offert gratuitement la possibilité d'ouvrir un blog pédagogique sécurisé pour qu'effectivement les collégiens, d'accord, et l'équipe éducative puissent écrire et se mettre en relation par rapport au projet Mission Crozet. Et puis, c'est aussi un portail documentaire, quelque part, puisqu'effectivement, l'équipe de Zoodyssée, particulièrement Estelle, l'a alimenté de plein de ressources pour que les élèves puissent les spotter, ainsi que les enseignants. Et aussi que Antoine Jouris puisse mettre un tableau de bord, c'est-à-dire en fin de compte ses activités, et son carnet de voyage. D'accord ? Il racontait un petit peu ce qui se passait, ce qu'il rencontrait, voilà, ses activités, etc. Donc le blog pédagogique, c'était vraiment un portail documentaire, au sens qu'effectivement les élèves allaient visiter le portail et voyaient, se mettaient en communication en mode asynchrone avec Antoine, comme ça, à distance. Et autre chose, autre espace du blog pédagogique, il y a effectivement la petite interface qui s'appelle le blog, ici, là. On peut le voir si effectivement je suis en temps réel, ici, là. Ce qui était intéressant, c'est de mettre en place, effectivement, un dialogue quasi en temps réel avec les élèves et Antoine Jouris. D'accord ? Sous forme d'un forum modéré. Donc on a détourné les fonctions du forum modéré pour mettre un chat, mais asynchrone. Voilà. D'accord ? Les élèves posaient des questions et Antoine, à distance, répondait. D'accord ? Donc là, je vous épargne les objectifs pédagogiques derrière tout ça, mais il y a du français, il y a la construction, il y a du thème, il y a plein de choses. D'accord ? Et tout ça, voilà. Et il y en a même qui ont été beaucoup plus loin. Il y a des élèves qui se sont échangés leur propre email pour dialoguer entre eux. D'accord ? Et puis je crois qu'il y en a même qui ont poursuivi la conversation en dehors du blog et en dehors des activités scolaires. Donc c'était assez marrant là-dessus.
Je crois qu'il y a un dernier outil numérique qui a été mobilisé dans cette expérience.
Tout à fait.
Peut-être le présenter avant de passer la parole au troisième intervenant. Je suis désolée, je suis obligée de vous presser, mais ouais, on essaye de gérer le peu de temps qui nous reste.
L'outil dans ce cadre de Mission Crozet, c'était la visioconférence, c'est-à-dire effectivement, au retour d'Antoine Jouris, c'était qu'Antoine présente effectivement ce qu'il avait fait là-bas, avec des photographies, avec des choses, avec du contenu un petit peu plus, un peu plus dense qu'il pouvait passer par le blog pédagogique, et surtout de dialoguer et de voir les élèves, d'accord, de les rencontrer. Donc L'idée, c'était effectivement d'organiser ces rencontres, mais avec quatre collèges espacés de plus de 100 km, ce n'était pas tellement facile. Donc on a proposé d'organiser des visioconférences. Donc on a mis en place, et vous voyez les photos, effectivement, des petites salles avec les groupes d'élèves. D'accord. Et là, on fonctionnait sous Skype. D'accord. On a essayé avec la plateforme académique. C'était pas très concluant au niveau audio-vidéo, enfin au niveau qualité, d'accord. Donc, mais avec Skype en mode point-point, ça marchait impeccable. Voilà. Donc ça, c'était le 8 et 11 avril 2011, avec des classes de 15 à 50 élèves, enfin des groupes d'élèves de 15 à 50 élèves, d'accord. Et l'apothéose, ça a été effectivement les rencontres interclasses le 17 juin, d'accord, aux lycées, où les élèves, ensemble, ont présenté leurs travaux, à la fois papier, sous forme d'exposition, ou sous forme numérique, le blog. D'accord. Voilà.
Très bien, merci beaucoup, Didier Drochon. Voilà. Donc on voit une expérience où des outils numériques interviennent, mais pas seulement, il y a aussi des rencontres réelles. Ouais. On va passer maintenant la parole à Sylvain Genevoix. Alors, je vais peut-être orienter du coup la caméra vers la salle pour avoir un retour, voilà, sur les personnes de la salle, qui va nous présenter donc une recherche action menée auprès de classes de collège et de lycée sur l'utilisation de jeux sérieux environnementaux, donc des jeux vidéo en classe. Sylvain Genevoix, je vous passe la parole.
Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Le son passe correctement, ça va? Oui, c'est bon?
C'est pas mal. On va essayer d'améliorer le son un peu.
D'accord, je vais peut-être me rapprocher du micro éventuellement. Est-ce que vous m'entendez mieux là?
Qu'est-ce qui est trop?
Ça va?
Oui, lui, il est trop près. Ah,
peut-être vous êtes au contraire trop près du micro.
Ah, peut-être trop près alors, je m'éloigne un peu alors. Ça va là?
Ça passera, ça ira.
Bien, excusez-moi d'abord de ne pas être parmi vous. Je suis actuellement en train de corriger les copies du Pierre Pérez par géographie.
Le son est pas bon, on va essayer de résoudre le problème. Thierry, qu'est-ce qu'on peut faire là, moi, je pense.
Alors, le son ne passe pas apparemment.
Si, là ça va là.
Il passe, mais il grésille.
Alors, c'est peut-être lié à mon micro qui est trop fort. Si je baisse comme cela, vous m'entendez là?
Oui, c'est mieux.
Est-ce que vous pouvez baisser encore un peu?
Oui, c'est le retour en fait qui doit repasser dans le haut-parleur.
Mais
ça va là.
Éloignez les haut-parleurs du microphone, s'il vous plaît. Alors qu'on organise une visioconférence sur Skype, en petite parenthèse, hein, ça fait le sujet d'une analyse, c'est nous. Par expérience, puisqu'on fait du visio-enseignement langue aussi au CDP, on a un studio, il faut éloigner les microphones du micro, d'accord, les haut-parleurs du microphone, pour éviter le phénomène de l'arsène.
Alors attendez, je vais peut-être prendre un micro externe à ce moment-là, attendez.
C'est haut-parleur. S'il est importable, il met le casque.
Tout à l'heure, il parlait.
L'assistante de langue, on l'a équipé en micro-casque professionnel. Comme c'est l'apprentissage de langue, il faut que ça soit nickel au niveau audio.
Donc, est-ce que c'est la mieux là?
Et les élèves, ils ont les haut-parleurs.
Alors,
et
la webcam.
C'est impeccable.
Voilà.
On a même acheté un micro de surface professionnelle.
Oui, vous devez avoir un. Vous avez un retour là, haut-parleur.
Oui,
j'ai un retour, je vais l'enlever. Alors, je vais mettre un casque.
Enlever le retour, oui. Ou mettez le casque pour le coup. Mettez le casque.
Le casque, ça va tout changer. Avec le casque, c'est...
Voilà. Merci. Allez-y. Mais on n'a plus votre son maintenant. Ah oui, il faut que vous remontiez votre micro pour le coup.
Mais je ne bouge pas le micro, c'est ça qui est curieux.
Vous l'entendez?
Est-ce que ça passe?
Oui, ça passe, oui. Remontez le micro.
Ah,
Ah oui, mais j'essaie de l'avoir complètement. Essayez de parler.
Oui, vous m'entendez là?
Très faible.
Très faible. Alors attendez, si je remonte.
Mais le son est bien meilleur, il n'y a pas de problème.
Alors attendez.
Tu peux remonter le son là? Non. Allez-y.
Oui.
Oui, c'est bien.
Oui, ça va?
C'est bien. Merci.
Voilà. Voilà,
ça revient. Et vous pouvez descendre un peu votre caméra, on vous voit. Voilà, merci, c'est mieux.
Si je baisse le haut-parleur, est-ce que ça baisse le son?
Là, c'est très bien.
Oui, c'est bon.
Ça va. J'ai un retour qui est trop fort. Bien, on va y arriver. Hein.
Oui, ça y est, la technique est avec nous.
Voilà. Donc, bonjour à tous. Alors, j'ai un retour qui est un peu pénible, je vais le baisser. Voilà. Donc, Sylvain Jettevoix, enseignant-chercheur, Université de Cergy-Pontoise. Ce que je vais vous présenter de manière assez succincte, hein, c'est une recherche-action que nous avons conduite il y a 2 ans, lorsque j'étais encore à l'Institut français d'éducation, à l'IFE, autrefois appelé l'INRP, l'Institut national de recherche pédagogique. Alors, cette recherche portait sur l'expérimentation de jeux de simulation environnementale. Ce qu'on appelle aujourd'hui les jeux sérieux, je pense que vous avez entendu parler des jeux sérieux, donc c'est à la mode. L'idée étant que dans les pratiques numériques des adolescents aujourd'hui, les jeunes utilisent de plus en plus de jeux. Quand on regarde les chiffres, pour vous donner une idée, aujourd'hui, un jeune de 15 ans fait facilement une vingtaine d'heures de jeux vidéo par semaine, alors qu'il lit au plus 3 ou 4 heures, qu'il s'agisse de lecture d'ailleurs de livres ou de lecture sur Internet. Donc on s'est dit peut-être que dans ces jeux, il y a matière à éduquer à l'environnement et surtout à venir travailler sur une approche de la complexité, une approche systémique. Et donc on a souhaité introduire ces jeux. Alors, avant de tester ces jeux, on a d'abord commencé par les analyser. On a construit, donc, c'est une recherche que nous avons conduite avec 5 enseignants, 4 enseignants en géographie, une enseignante de SVT. Donc, nous avons souhaité tester ces jeux, d'abord pour nous, pour voir quelle conception du développement durable a été remarquée dans ces jeux. Alors, nous avons testé une vingtaine de jeux, ce n'est pas exhaustif, hein, mais c'est déjà pas mal. Certains, vous les connaissez peut-être, ils sont assez connus, des jeux comme Ecoville, par exemple, qui sont développés par l'ADEME et par la région Aquitaine. Et Alto Catastrophe, je ne sais pas si vous connaissez ces jeux, ce sont des jeux gratuits qu'on trouve sur Internet. Alors, on a distingué assez nettement des jeux qui sont des jeux de sensibilisation, des jeux qui sont basés sur des conceptions relativement behavioristes, comportementalistes, où essentiellement il s'agit d'éduquer aux éco-gestes. Par exemple, il y a un petit jeu qui s'appelle Eco-Ego, qui est un jeu japonais, dérivé de manga. Donc un jeu assez facile, on joue en 5-6 minutes hein, ce jeu, donc c'est très court. On l'a utilisé en collège en 5e, mais quand on regarde de près les conceptions qui sont embarquées dans ces jeux, on s'aperçoit qu'on est sur quelque chose qui est relativement du, on va dire, du conditionnement. C'est-à-dire, si j'augmente trop la climatisation, je vais générer des gaz à effet de serre, et donc je vais avoir, par exemple, un arbre où on voit les feuilles tomber, donc c'est assez imagé, mais ce sont des choses qui ne permettent pas de comprendre la complexité, qui ne permettent pas de comprendre les choix qu'on peut faire. Hein. Donc, nous, ce qui comptait pour nous, c'est vraiment l'éducation au choix. Alors, quand on regarde ces jeux également, on s'aperçoit qu'ils sont construits et sont édités par différents organismes qui sont... Alors évidemment, la chose n'est pas neutre parce que certains sont des jeux, en fait, de publicité, hein, de propagande auprès des grandes sociétés, comme par exemple Starbucks, qui veut avoir une image et des points durables. D'autres sont développés par des grands organismes internationaux comme l'ONU, qui souhaitent, par exemple, éduquer au risque. Un jeu comme Alto Catastrophe permet de lutter contre les inondations, les séismes. Certains jeux également sont des jeux qui permettent de mesurer son empreinte écologique.
donc faite à la WWF. Donc, on a vraiment une grande diversité de jeux, une grande diversité de conceptions du développement durable derrière ces jeux. Alors, l'hypothèse que nous avons faite, on avait trois hypothèses. Donc, d'abord, quelles étaient les conceptions du développement durable dans ces jeux? Ensuite, comment on pouvait introduire ces jeux de manière à favoriser une vraie réflexion qui dépasse la culpabilisation et qui permet vraiment d'éduquer le citoyen, d'éduquer de manière un peu critique, on va dire. Et en fait, on a aussi une troisième hypothèse, mais qui est liée plus directement à une autre recherche qu'on faisait sur l'obligation des savoirs. Comment finalement ces jeux interviennent par rapport à des savoirs sociaux qui sont véhiculés dans la société, par les médias, et comment ils peuvent rencontrer des savoirs scolaires. Donc comment se construisent les savoirs des élèves à la rencontre de différents savoirs véhiculés par les médias, véhiculés par l'école, et comment ils arrivent à se construire un point de vue, des attitudes. Donc ce qu'on appelle l'hybridation des savoirs. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail de toute l'expérimentation, mais en gros, on a construit un protocole de recherche. On a testé donc ce jeu dans quatre classes différentes, en cinquième, en quatrième, en troisième, surtout en collège, et puis également en seconde, où le thème du développement durable apparaît assez fortement. On a testé différents jeux dans différentes conditions. Alors, dans des situations qui sont soit des situations assez formelles, sous forme d'études de cas en histoire-géographie, intégrées dans des programmes, donc dans des dispositifs scolaires assez formels, également dans des situations plus informelles, par exemple en soutien scolaire, de manière plus transversale, sur plusieurs disciplines. Également, on a souhaité tester ces jeux hors de l'école. Alors c'est plus difficile parce que ils ont joué chez eux, mais on n'a pas forcément de retour sur ce qu'ils ont fait. Alors, on a enregistré les scores, on a interviewé les élèves, on a interviewé les enseignants, on a les parties également, on a enregistré les parties. Donc on a les déplacements, les traces d'usage numérique sur ordinateur. À partir de tout ce corpus de données, on a pu arriver à dégager un certain nombre de résultats. Alors, je vais vous donner les principaux résultats, et puis je pense que l'intérêt, c'est qu'on en discute. Le premier résultat, c'est qu'on s'aperçoit que les élèves sont vraiment motivés. Alors, ils sont motivés d'abord parce qu'ils jouent, bien sûr, il y a une situation ludique, il y a un scénario ludique, mais aussi parce que très vite, ils sont immergés dans une situation à problème à résoudre. Donc, ce sont des situations problèmes où, par exemple, ils doivent construire une ville durable. Alors, on retrouve souvent le modèle de SimCity, c'est-à-dire qu'on doit construire une ville avec certains paramètres, implanter des énergies renouvelables, des transports doux, respecter un certain nombre de choses, par exemple le tri des déchets. Et donc, ils doivent respecter certains paramètres. Chaque fois qu'ils prennent une décision, ils ont un budget à gérer et ils voient tout de suite les conséquences de leur décision. Donc, ils ont un feedback, ils ont un retour sur leur décision. Donc, c'est assez intéressant parce que les élèves me disent, sans vraiment connaître, sans avoir tous les enjeux en tête, on est vraiment immergé dans des situations réelles, hein, d'un décideur qui doit gérer une vie durable, faire des choix, faire des priorités. Et donc, on est dans quelque chose qui est assez réaliste, des simulations qui sont assez réalistes. Donc ça plaît beaucoup aux élèves. Le second résultat qui nous a beaucoup intéressé, c'est leur rapport au jeu. Lorsqu'on regarde de plus près, ils nous disent, bon, ces jeux, ce sont quand même des jeux un peu particuliers. Ce ne sont pas des jeux d'action, ce ne sont pas des jeux vidéo en trois dimensions comme ils ont l'habitude d'utiliser par ailleurs chez eux. Pour eux, ce sont quand même des jeux, on va dire, scolarisés, c'est-à-dire qu'il y a une intention sérieuse. Et ils le sentent très vite. Et là, ils décrochent quelquefois en disant, bon, là, ça devient sérieux, il faut qu'on... Donc, ils sont partagés d'un côté entre jouer et puis de l'autre côté, apprendre des notions et y revenir. Et c'est ça qui vraiment nous a intéressé, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait deux situations très différentes. Dans le premier cas, qui est le cas majoritaire, les enseignants utilisent ces jeux initialement. pour sensibiliser à une question et ensuite ils font cours. Et la difficulté, c'est qu'ils utilisent ces jeux en face de ce qu'on appelle, nous, d'un point de vue didactique, la phase de dévolution. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il faut que je m'approprie ce problème et ensuite je vais chercher des solutions. Et quelque part, s'ils n'ont pas l'appareillage, s'ils n'ont pas une conception, par exemple, de ce que c'est que les gaz à effet de serre, les définitions qui vont derrière, les problèmes de gestion de la transition énergétique, etc., il leur manque des clés pour pouvoir faire des choix qui soient éclairés. Et on s'aperçoit que les enseignants qui ont ensuite repris, qui ont en quelque sorte fait un débriefing, qui ont ensuite fait verbaliser les élèves sur ce qu'ils avaient pu vivre, ce qu'ils avaient construit comme vie, y compris leur faire comparer d'un jeu à l'autre, d'un scénario à l'autre, ce qu'ils avaient pu construire. Eh bien, dans ce cas-là, lorsqu'il y avait exploitation du jeu de manière plus approfondie, alors ça paraît évident à dire comme ça, mais que le jeu ne venait pas uniquement en phase de dévolution du problème, mais venait vraiment pour construire progressivement une notion, on s'apercevait que le jeu avait un statut vraiment différent. Alors là, il faut faire intervenir quelque chose, une notion qui est importante, c'est la notion d'inférence abductive, c'est-à-dire que vous connaissez peut-être les grands forme de raisonnement, on raisonne par analogie, par induction, on raisonne de manière hypothético-déductive, en faisant des hypothèses et en déduisant, et on s'aperçoit que ces jeux ne sont ni sur l'induction, ni sur l'hypothético-déductif, ils sont sur quelque chose qu'on appelle l'abduction, c'est-à-dire qu'on fait une première hypothèse, une première proposition, on essaye ensuite de tester de manière un peu, on va dire, empirique. On va très vite corriger la situation. J'ai mon téléphone qui sonne, je l'arrête. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'ils vont arriver à raisonner progressivement en fonction des contraintes qui sont les leurs dans le jeu. Et donc, le raisonnement se construit de manière à partir de situations assez empiriques et sans avoir une idée préconçue des choix qu'ils vont faire. Donc ça nous a beaucoup intéressé pour renouveler aussi le mode de raisonnement. Alors, un autre résultat qui est apparu dans ces expérimentations, c'est que le scénario ludique embarqué par le jeu n'est pas forcément le scénario pédagogique de l'enseignant. Et par exemple, un des enseignants qui a travaillé avec nous a participé à la conception de scénarios pour Ecoville, c'est-à-dire à travailler sur un livret pédagogique. Et donc, il y avait un véritable accompagnement et une réflexion en amont sur la façon de construire un scénario d'apprentissage dans un jeu. Et bien, cet enseignant, donc, qui avait davantage formalisé, on va dire, en amont, assez différente, il a fait une sortie de terrain avec ses élèves en géographie sur un projet d'aménagement urbain. Donc, c'est à Lyon, un grand projet de réaménagement du quartier de la Duchère, qui est un quartier socialement défavorisé, qui aujourd'hui fait l'objet d'une réhabilitation, d'un réaménagement, d'une rénovation urbaine. Et donc, il a fait donc une sortie de terrain avec ses élèves, il a étudié la façon dont aujourd'hui ce quartier se reconstruisait, ce quartier urbain difficile se reconstruisait avec d'autres approches, notamment des points durables, des points de transport doux, une nouvelle approche qui ne soit pas uniquement une approche sociale de la ville par les quartiers difficiles, mais avec l'idée de vivre ensemble dans une ville qui soit vivable, hein, donc la notion de ville vivable. Et donc, il a fait jouer ses élèves suite à cette sortie sur le terrain. Donc, le jeu est venu renforcer certaines acquisitions ou au contraire est venu remettre en question certaines choses qui avaient été vues sur le terrain. Donc, on a aujourd'hui une diversité dans l'appropriation de ces jeux, dans la façon de les mettre en œuvre dans des contextes scolaires ou des contextes plus ou moins parascolaires ou plus ou moins informels, qui aujourd'hui nous intéresse beaucoup. Alors, cette recherche aujourd'hui, nous l'avons à peu près clôturée, hein, puisque c'est une recherche qui durait sur 2 ans. Hein. On est en train de la renouveler de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que là, on est en train de construire avec les enseignants des scénarios de prise en main et surtout d'utilisation, on va dire, raisonnée de ces jeux intégrés dans une situation scolaire d'apprentissage.
D'accord. Sylvain Genevoix, voilà. Peut-être...
Alors, je vais m'arrêter tout ça parce que là. Je pense que le temps passe. Donc, le débat est ouvert par rapport à cela et par rapport aussi aux précédents intervenants. Hein.
Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce retour d'expérience. Il nous reste un tout petit quart d'heure pour des échanges avec la salle, et on avait dit que c'était impératif qu'on ait ce temps-là en dehors des après ces trois présentations. Donc, je vous renvoie le micro dans la salle. Comment ces présentations et comment ce qu'elles éclairent pour nous sur l'usage des outils numériques dans le domaine éducatif vous interpelle, vous fait réagir par rapport à l'utilisation possible d'outils numériques en éducation à l'environnement.
Je suis une enseignante retraitée qui a suivi en son temps l'arrivée massive du plan informatique pour tous là, avec Bonnery en 83, où je ne sais pas si certains se souviennent, mais ce qu'on faisait, c'était taper des petits programmes, je ne sais plus quoi, qui servaient strictement à rien. C'est une honte, quoi, ce qui s'est passé à l'époque. Bon, après, je n'ai pas eu un intérêt très violent pour l'usage des TIS en tant que professionnel. Actuellement, je ne pourrais pas me passer de l'outil informatique. C'est-à-dire, dans ma vie, ce serait comme perdre une jambe. Hein. Mais voilà ce que m'évoquent vos présentations. Je vous posais une question tous les deux. Dans votre lycée qui est bien connu pour ce côté innovant, vous en tant que prof, comment faites-vous auprès de vos élèves pour leur apprendre à vous donner un sujet, je ne sais pas, les grands conquérants espagnols de tel siècle. Comment faites-vous pour leur apprendre à aller chercher de l'information, en tirer une synthèse et la rédiger ? Et ensuite, l'exprimer oralement à leurs copains, par exemple, ou faire ce travail de manière collective. En quoi votre nouvel outil vous permet de faire ça, sur cet exemple précis ?
Donc, Marie Legrand aborde, je crois, le problème de la littératie numérique, c'est-à-dire la façon dont on se saisit de l'information et dont on la traite. Donc, quelle est la réponse des enseignants ?
Le métier d'enseignant change, forcément. Le statut du prof qui, il y a quelques années, était détenteur du savoir. C'était le prof qui savait. Aujourd'hui, ce que je sais, moi, en SVT, puisque c'est ma discipline, c'est une demi-goutte d'eau dans un océan d'ignorance pour moi. Donc, si l'élève, je sais qu'il a accès à un savoir, il clique sur un mot et il a 2 millions de pages, ou voire plus, vous savez tout ça avec un moteur de recherche, mon rôle, c'est ça, c'est de lui apprendre à apprendre. Beaucoup plus que de transférer la connaissance. Remplir un vase de connaissances, ça a existé, il y en a toujours qui le font, mais allumer une flamme, c'est autre chose. Alors, c'est là notre rôle, effectivement. Ils peuvent avoir, d'abord, tout le monde ne fait pas la même chose en même temps. Dans nos classes, depuis des années, et bien avant l'arrivée de la tablette, on a des pédagogies dites différenciées, et l'élève y va à son rythme. On donne différents documents. Personnellement, il y a une liste faite avec carte mentale, donc c'est des choses où on voit très rapidement un document qui peut être intéressant. Donc l'élève, il va piocher ce qui l'intéresse. Et après, on est là pour être à son écoute. Il faudrait autant d'enseignants que d'élèves, mais c'est déjà pas si mal. Pendant que d'autres travaillent, on peut apprendre à l'élève à isoler ce qui est important d'un texte qu'il est en train de lire. Peut-être avec, aujourd'hui, on a des outils avec les tablettes de surlignage, d'annotation, des choses comme ça, des docs PDF ou des documents trouvés sur Internet qui ne soient pas PDF. L'avantage de ça, c'est par exemple, on a des calques sur lesquels on annote ou autre, et on peut réutiliser un texte après, vierge d'annotation et de complément de l'élève, ou avec ses annotations. C'est aussi un aspect intéressant de l'outil. Pour qu'il fasse une synthèse, moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'un papier. Il faut que j'écrive. Ça, c'est ma tablette d'aujourd'hui, c'est mon cahier. Mais il me faut écrire pour apprendre. Et on a beaucoup de collègues qui imaginent que les jeunes ne peuvent apprendre que par la mémoire scriptuelle. Mais ce n'est pas forcément vrai, puisqu'ils n'ont pas la même culture que nous. Nous, on est baignés là-dedans, le papier, le crayon, le livre. Et aujourd'hui, si une synthèse n'est pas nécessairement manuscrite, si l'élève il veut faire une synthèse avec sa tablette, oralement, il peut bien, il a le droit. On voit par exemple l'intérêt des tablettes sur l'usage qu'on appelle l'usage prompteur. On a évalué il y a 15 jours des élèves en MID, module interdisciplinaire, aussi une des particularités d'établissement, mais ils ne venaient pas avec quelque chose d'écrit sur papier, mais ils avaient sur leur tablette la synthèse qu'ils voulaient faire, et il règle le prompteur à leur débit vocal. C'est intéressant que l'outil est au service de ce qu'il voulait faire. Après, il n'y a pas de règles absolues, les mêmes pour tout le monde, pour faire une synthèse ou pour faire un exposé oral ou autre. Il faut qu'ils se le personnalisent et on est là pour leur dire « Oui, ben ça, c'est peut-être bien, continue comme ça, ou ça, ben non, tu vas te casser les dents. »
Je rebondis sur tes propos. Il faut savoir aussi qu'avant de rentrer en lycée, on est écolier, on est collégien, on a appris, on a eu d'autres enseignants. Et que parmi les objectifs pédagogiques de certaines disciplines, il y a effectivement dans les thèmes transversaux éducation aux médias, d'accord, éducation à la citoyenneté, éducation au développement durable. Et tout ça, ça se croise. Et c'est vrai que pour appréhender ou pour évaluer effectivement ces compétences de synthèse, c'est le plus difficile, ça c'est clair. C'est l'éternelle question pour les enseignants, c'est comment évaluer la synthèse. C'est quelque chose de très compliqué et surtout les géographes et historiens sont bien placés pour le savoir. C'est une multitude de petites touches, de petites méthodes d'enseignement qui fait qu'on est en capacité d'avoir des outils qui vont faciliter cette synthèse. D'accord ? Et le papier en fait partie, mais effectivement, la tablette, on peut très bien s'en servir comme magnétophone numérique ou simplement le smartphone et puis balancer ses idées. La carte mentale en fait partie, il peut y avoir quelque chose de très linéaire, c'est souvent les individus. Hein. Nous, en tant qu'adultes, on a une culture linéaire des choses, c'est-à-dire de par l'écriture, mais aussi par beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est complètement hyperactif, on a des liens partout. Voilà. C'est comme ça qu'ils vont acquérir ces notions de synthèse. Quoi.
La tablette n'est qu'un outil. Par rapport, pour répondre à votre question, si j'avais à le faire dans ma discipline, l'enseignant, malgré tout... D'un enseignant à un autre, la pédagogie n'est pas la même. L'enseignant va avoir tendance à mettre à disposition des élèves des documents déjà qu'il a choisis en amont. Ça n'a rien changé. La tablette ne révolutionne pas de toute façon la pédagogie pour cet aspect-là. Et puis pour les recherches, on peut déjà cibler et proposer à l'élève des liens vers des sites que l'enseignant a déjà choisis. Inversement, au lycée, il y a des cours de ce qu'on appelle du TISEM, c'est-à-dire des cours d'informatique, où on apprend aux élèves justement à faire des recherches sur Internet. L'intérêt aussi de la recherche, c'est de pouvoir croiser les informations, montrer aux élèves que Wikipédia n'a pas toujours la science infuse, parce que c'est le gros problème aujourd'hui de la plupart des jeunes auxquels nous sommes confrontés. Ils regardent sur Wikipédia et puis ça va s'arrêter là, d'où l'intérêt de croiser les informations. Et la synthèse, de toute façon, elle est à l'élève, donc il a les supports à lui, de prendre les éléments les plus importants en fonction de la consigne que l'enseignant lui a donnée pour réaliser sa synthèse. Donc, pour moi, la tablette, c'est un outil, un support qui va nous permettre d'accéder à un certain nombre de ressources qu'on a choisies, qu'on va faire découvrir aux élèves. Mais le reste, l'aspect pédagogique, je dirais, le déroulé n'a pas tellement changé par rapport à ce que vous évoquiez.
Merci pour ces retours. Est-ce que...
Est-ce que vous avez besoin d'horaires? Est-ce que vous avez besoin d'une école telle qu'elle se présente actuellement?
Il y a 25 ans que je suis dans le SBI, parce qu'il a 25 ans d'âge, vous m'entendez, je suppose. Et déjà, je disais que la notion de classe, elle était déjà dépassée, il y a 25 ans. Elle l'est d'autant plus aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas une classe, il faut un espace de travail. Oui, mais pour chaque élève, un espace. Et je voulais dire, pluralité d'espace pour l'ensemble des élèves. Moi, j'en vois tous les jours assis dans les couloirs. Certains jouent, comme je disais tout à l'heure. D'autres travaillent. D'autres sont à la cafétéria. D'autres nous demandent s'ils peuvent avoir accès à notre salle parce qu'elle est libre. Oui. Et aujourd'hui, la notion de classe, elle a plus lieu de dire. C'est un casse-tête d'enfer pour un proviseur adjoint que de faire les emplois du temps aujourd'hui. En première, par exemple, on a 4 classes de première. Quatre classes de première, ça c'est concrète, 5. Il y a 176 groupes différents. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais en classe entière.
Très rare.
Jamais. Il y a un tronc commun pour 2 heures de tel truc et c'est tout. Donc ça nous pose beaucoup plus de problèmes que ça simplifie la vie, hein, les classes.
Donc le
Mais l'institution est comme toujours,
changer.
Et c'est ça le problème de l'innovation. Dès le début de l'établissement, on ne mettait pas de notes, mais en première, il fallait mettre des notes sur le livret scolaire. Et on n'a jamais les moyens de nos ambitions. Il faut toujours se remettre dans un moule administratif, archaïque. Et donc, il y a des classes. Et les enseignants, ils sont
fléché pour une classe et non pas pour un groupe. Et c'est un casse-tête dimensionnel. Et tant qu'on n'aura pas mis un grand coup de pied dans cette fourmilière-là, on n'y arrivera pas. Si un jour le bac, il arrivera, mais je ne sais pas quand, il arrivera qu'il sera numérique, mais je pense qu'il y a encore du chemin.
On va prendre deux questions pour clôturer le débat, parce que malheureusement, il serait déjà temps d'aller manger. Donc je passe la parole. Vous vous présentez rapidement avant de poser votre question.
Merci. Patrice Braconnier, Université de Poitiers. Si je suis ici, c'est parce que j'ai vécu durant cette année un travail de préparation, de rencontres qui ont été repoussées à l'année prochaine, mais extrêmement intéressantes. Avec l'IFRE, en liaison avec l'Institut de dialogue social territorial. Et en écoutant ces présentations, je me disais finalement, toute cette qualité d'échange qu'on a pu avoir, cette attention que j'ai pu déceler dans l'échange avec l'IFRE, toute cette manière de faire, elle est aussi beaucoup liée au fait qu'on s'est réunis, c'est-à-dire qu'on était en face à face, en proximité, et on a eu de la créativité, et la créativité... nécessite cette proximité. On est sur des choses qui sont fines de l'information stratégique qui a échangé, à un moment des choses qui se passent qui ne sont pas de l'ordre uniquement codé, mais qui sont des intuitions, des... Bon, je passe là-dessus. Et du coup, je me demandais, dans quelle mesure ce que vous présentez, hein, et ça vient dans la foulée de la question de mon voisin, dans quelle mesure ce que vous présentez favorise les relations sociales, cette qualité de relation qu'on a pu avoir, la créativité, le lien qui va avec. Alors, la classe, c'est une chose, c'est un espace, un lieu, un temps. Moi, je ne suis pas contre le fait que la classe puisse être diffuse partout, hein, parce que, mais dans quelle mesure vous pouvez dire que ça favorise le lien, qui fait aussi un point important de nos échanges.
Merci.
La question, c'est les diapos que je n'ai pas pu présenter après avec l'introduction des technologies Web 2, à savoir qu'effectivement, dans tous les contrats qu'on met en place, par exemple, que ce soit blog pédagogique, visioconférence, ou effectivement travail à distance, ou effectivement en non-présentiel, on est vigilant, en tout cas, moi je suis vigilant lorsque j'ai mes interruptions, de dire provoquer des rencontres physiques des personnes. En tout cas, les jeunes le souhaitent, ça c'est clair. On l'a vu dans les rencontres interclasses, dans le projet de Mission Croisée. On le voit aussi pour le projet, effectivement, Mon Village, espace de biodiversité, puisque c'est le lien social, c'est le village, c'est pas que l'école, c'est le village, les bibliothèques municipales, les habitants, les artisans, les commerçants. D'accord ? Et là, dans le projet, effectivement, qui va être mené dès maintenant, le projet Écorce, pour l'ensemble du territoire de Deux-Sèvres, c'est ça aussi. C'est-à-dire que le numérique n'est qu'un outil au service de la collectivité, mais on va essayer de tisser effectivement fortement l'aménagement du territoire et les liens sociaux avec ces outils-là. Voilà.
Est-ce que Joël Coutab, vous souhaitiez répondre aussi
je pourrais parler longtemps. Oui.
Là, il va falloir faire court, malheureusement.
Mais je crois qu'il n'y a pas... Je crois que ce qui est indispensable, c'est la relation que l'on a avec l'enfant. Si on met c'est dans l'indulgence que l'on a et l'humilité que l'on permet de faire fleurir les questions. Si moi je reste sur l'estrade et puis je suis considéré comme le docte qui connaît l'expert, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il n'y a pas de questions, les élèves n'en ont pas, ils ont peur. Dans l'établissement, on a une relation à plat, horizontale avec les élèves. Il n'y a pas d'estrade. Et on est avec eux en permanence, pour la plupart d'entre nous. Après, chacun a sa pédagogie. Mais c'est hyper important. Là, quand Christophe disait qu'on a nos tablettes depuis longtemps, on s'est dit, j'ai proposé que ce soit des élèves, ils sont bien plus experts que nous dans le maniement de ces outils-là, qui forment les profs. Et ça, il n'y a eu aucun problème, ni des enseignants, ni des élèves. Ils ont trouvé ça naturel. Ils ont dit, bah oui, moi je sais, donc je vais vous dire.
Oui, j'ai vu effectivement une photo de ce moment sur Internet et c'est très impressionnant de voir des élèves sur l'estrade et les professeurs dans la salle.
Moi, j'étais au fond de la salle et je trouvais ça fabuleux. J'ai dit là, j'ai réussi un truc. Quoi.
Encore. Le Web 2 introduit fortement effectivement, la collaboration, les échanges, le partage et on va dire le nivellement horizontal de la transmission de l'information.
D'accord. Voilà. Il nous reste deux prises de parole dans la salle. Laurence Marcillot avait demandé et Michel également.
Alors, excusez-moi, en plus, c'est deux Laurence Marcillot qui vont intervenir. La conseillère régionale, dans un premier temps, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, il y a le problème du financier. Hein, je trouve que c'est des moyens extrêmement importants pour des outils. C'était juste cette remarque-là. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je suis enseignante en biologie et écologie. Le truc du ministère de l'Agriculture qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelait les sciences naturelles du temps où ça existait à l'éducation nationale. Et moi, je suis totalement réfractaire à l'utilisation qui peut être faite de l'informatique. Moi, par exemple, le fait d'avoir une sonde qui mesure l'augmentation de l'oxygène, je fais compter des bulles à mes élèves et je trouve ça... Et ce qui me gêne, c'est, pour aller un peu plus loin que cette remarque-là, c'est le fait d'être dans quelque chose qui est dans du virtuel. Et moi, en fait, je me retrouve dans tout ce que vous décrivez, dans les apports que vous avez. Moi, j'ai ça en allant sur le terrain avec mes élèves. Donc c'est assez paradoxal, hein, et en étant complètement là, dans du concret. Enfin, moi je suis partie faire du surf avec mes élèves, hein, une journée. Donc on a fait du surf, on a fait du sauvetage en mer et on a fait une étude de la végétation de la dune et des successions écologiques, etc. sur une journée complète. Et globalement, je développe exactement la même chose. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes relations, qu'il y a des oiseaux qui passent et que j'ai des élèves qui sont plus forts sur les oiseaux que moi et qui apprennent à tout le monde. Et puis qu'il y a, le surf, c'était d'autres élèves c'était les élèves d'une classe qui apprenaient à une autre. Enfin, donc du coup, voilà, je m'interroge. Alors, j'ai pas de réponse. Je sais que moi, je suis vraiment entre guillemets une vieille conne là-dessus. J'aime bien le côté, on va lancer un élevage d'escargots sur lequel on va étudier la gestion des déchets. C'est-à-dire que la problématisation, on la fait pas au travers d'un jeu, mais on la fait au travers d'un élevage d'escargots. Et donc, moi, je m'interroge sur est-ce que quelque part aussi l'école n'a pas un rôle de sanctuarisation de certaines approches, sachant que les élèves sont confrontés au numérique et au virtuel dans tout leur environnement. Et là-dessus, je n'ai pas de réponse. C'est pas du tout. Mais c'est vraiment, moi, une interrogation que j'ai. Est-ce qu'en tant qu'enseignant, on ne doit pas aussi conserver cette partie-là ?
Il faut. Là, il n'y a pas d'inquiétude. L'outil, il est à utiliser que lorsqu'il est indispensable. Je suis bien d'accord. Moi, ça me reporte à il y a 15 ans, quand un élève me dit « Monsieur, la pelouse, elle pousse tout le temps ou pas ?» Mon père, il a ton sang en permanence. Mais ça pousse quand ? Je dis « Excellent. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Toujours transmettre. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Bah, je sais pas. » Je dis, bah, voilà, je te donne un centimètre. Tu t'assieds au bout de ton herbe et tu la mesures. Tu la mesures tous les combien ? Il dit bah, « Vous rigolez ?» Je dis « Non. Est-ce qu'il y aurait un autre moyen ?» Et c'est de là que l'idée d'un capteur d'élongation linéaire et autres, et ben voilà, on a travaillé ça ensemble. Et il a appris des tas de choses. Ça a donné ensuite naissance au projet qui s'appelait La Plante qui parle, où j'avais gagné un concours à Espace Mendès France, et je suis parti 15 jours à San Francisco avec lui. Ben c'est grâce au numérique, parce qu'on a fait de l'acquisition automatique de mesures. Mais si je dois aujourd'hui dire, bon, est-ce que quand tu respires, tu rejettes, oui, ou il me dit, on va regarder ce qu'ils rejettent. C'est pour dire, oui, je rejette de l'air, j'en prends. Ça n'a aucun intérêt. On le sait. Si maintenant, vous parlez de bulles d'oxygène, est-ce que c'est de l'oxygène qui sort ? Oui ? Ben non. Non. C'est 20% d'oxygène et c'est 80% d'azote. Mais quel moyen j'ai de lui montrer ? Si je n'ai pas un outil chimique ou un capteur, si j'ai un capteur de dioxygène, je vais lui démontrer. Si je n'ai pas, je ne peux pas. Donc, soit on s'arrête pour dire... Il y a du qualitatif ou il y a du quantitatif. Qu'est-ce que je veux avec mon élève ? Quelle est sa question ? Quel est le programme ? Parce qu'il faut aussi quand même enseigner un peu le programme. Okay ? Mais c'est tellement peu. Il faut tout survoler et on ne fait rien. Mais si on s'arrange bien, on peut amalgamer et faire beaucoup plus, former un cerveau, plutôt qu'une machine à absorber des connaissances capable de les restituer. C'est là-dessus, c'est contre ça qu'il faut se battre. Si systématiquement on doit écrire un texte avec un clavier, etc., parce que le prof l'a dit, ça n'a aucun intérêt. Si maintenant c'est un besoin, bah ouais. Si vous voulez voir que la pousse pente, eh ben, vous mettez une sonde ou un capteur en route, et puis ça vous donnera quelque chose. Et après, moi je me suis opposé dès le départ au logiciel où la courbe elle est tracée. Eh ben, le logiciel que j'ai écrit, c'est surtout pas ça. Vous avez un tableau de données, et après, qu'est-ce que j'en fais ? À toi de jouer.
Donc
l'outil, il est fondamental. Si j'ai pas Excel pour faire ça, je fais rien.
Il y a une autre question. Lorsque j'ai appris
pas tout seul au monde et j'aurais envie quand même que ce que j'ai appris, je le transmette ou j'en discute avec des copains. Je fais comment ? Une autre question. C'est-à-dire le partage, la collaboration, l'échange, le lien social qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'effectivement, se construire son parcours effectivement scolaire et professionnel, mais aussi construire son parcours personnel. C'est-à-dire comment je vais... ma relation à l'autre, comment je vais effectivement, j'ai compté le nombre de cloportes, mais c'est que pour moi. Est-ce que c'est pas, ça n'intéresserait pas quelqu'un d'autre? Voilà. Et avec quel outil je vais faire ça?
Je crois que les jeux de simulation ont été évoqués aussi par Laurence en disant finalement qu'est-ce que ça apporte de différent que le terrain. Est-ce que Sylvain Genevoix veut réagir là-dessus?
Oui, j'ai pas grand chose à dire en fait, parce que je pensais pas que le débat tournerait autour du numérique en tant que tel de manière générale. Bon, je travaille par ailleurs sur les instruments, les ONT, les tablettes, on conduit des recherches là-dessus. Bon, c'est un vieux débat, à quoi ça sert, quelle est la plus-value pédagogique, etc. La question est récurrente. Il me semblait que l'objet par rapport à votre association, c'était surtout de voir comment. Ces outils étaient au service ou pas d'éducation de développement durable. Donc, je pensais qu'il y aurait des questions là-dessus, surtout. Donc, je vais orienter ma présentation sur le DD plutôt, mais bon, je me suis peut-être trompé.
On ne maîtrise jamais vers où va le débat.
Mais voilà, c'est pas grave, hein, c'est un débat aussi intéressant, mais beaucoup plus, à un niveau qui, à mon avis, est beaucoup plus général. Hein, je n'ai pas grand-chose à rajouter, simplement, on est sur des situations d'apprentissage instrumentées, comme on dit, qui sont de nature très diverse. Donc, on ne peut pas en parler de manière générique. Aujourd'hui, parler des TIS de manière générique, ça ne veut rien dire. Entre un outil ou un instrument qu'à mesure, un hexao, un jeu sérieux, outil type de collaboration, partage, on ne parle pas de la même chose.
D'accord.
Je veux dire, c'est comme si on comparait un vélo, une voiture, un camion. Bon, voilà, évidemment, ce sont des outils de transport terrestre. Mais voilà, je pense que là, on est sur un niveau de débat qui est tellement générique que c'est difficile de. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, je ne dirais pas grand-chose par rapport à ça.
Merci. Donc, on retiendra qu'il faut mettre de la nuance entre les outils numériques. Et qu'on ne peut pas tous les envisager de la même façon. Je donne la parole à Michel qui l'avait demandé tout à l'heure et ce sera quasiment le mot de conclusion puisqu'on sera obligé de s'arrêter après.
Alors c'est surtout pas pour faire une conclusion. Moi, au fil des interventions et même des échanges qu'il vient d'avoir, petit à petit j'ai complètement oublié le côté TIC. Par contre, complètement intégré la notion d'outil. Et petit à petit, j'en suis arrivé à me dire ce qui est en train d'être évoqué là, c'est les fondamentaux éducatifs, finalement. Quand j'entends il faut descendre de l'estrade, je fais partie des gens qui, une partie de leur vie, ont été enseignants du mouvement freiné. Moi, la première fois que je suis rentré dans une classe, mon premier travail, ça a été de mettre le bureau au niveau du sol et pas de le laisser sur l'estrade. Donc, quelque part, ce n'est pas les TIC qui apportent cette question de la relation adulte-enfant, enseignant-enseigné, apprenant, etc., etc. Et ce fondamental, finalement, on a éprouvé le besoin de le redire quelque part. Est-ce que les outils qui nous ont été présentés peuvent favoriser le fait que massivement les enseignants descendent de l'estrade? C'est un vœu qu'on peut formuler ensemble. Je ne sais pas si c'est un vœu pieux. Sur les aspects des usages et des situations, et pour rester sur ce fondamental que Célestin Freinet, entre autres pédagogues, a posé, repris aujourd'hui par Mérieux, hein, tout ce côté que tant de gens détestent, le pédagogisme, quand vous nous rendez compte de ce gamin qui tout d'un coup vous pose la question de « mais alors, elle pousse quand l'herbe, quoi ?» Hein, et voilà, comment je fais pour. Vous êtes complètement dans quelque chose que M. Genevoix, à mon avis, a très bien expliqué. On a eu du mal à vous entendre, hein, M. Genevoix, c'était passionnant.
Désolé.
Et j'espère qu'on va pouvoir récupérer, nous, les travaux, etc. Vous avez merveilleusement illustré, d'abord, que c'est un pléonasme de parler de jeu sérieux avec des enfants. C'est toujours sérieux quand un enfant joue. Et vous avez mis en avant, je crois, dans vos résultats, quelque chose qui était mis en avant comme ces fondamentaux d'autres pédagogies que les pédagogies qui sont encore majoritaires, qui est le tâtonnement expérimental, qu'en dehors des démarches déductives, hypothétiques, déductives, etc. Et c'est exactement en lien avec la situation que vous avez exposée. Qu'est-ce que je fais face à l'enfant ? D'abord, un, comment est-ce que je me débrouille pour que l'enfant il ait envie de me la poser, la question ? Parce que dans un cadre majoritaire de l'école, jamais il posera la question. Parce que le système fait qu'il ne peut pas imaginer que ce soit une bonne question de poser la question de savoir, mais quand est-ce que l'herbe pousse ? Bon, déjà, la question fondamentale, c'est peu importe TIC ou pas TIC, est-ce qu'on est dans un système qui fait que les enfants peuvent se mettre en situation de recherche autonome, d'envie de savoir, d'envie de découvrir. Et du coup, effectivement, ça vous positionne, vous enseignants, différemment. Donc voilà, moi, les remarques que je voulais faire, c'est... et j'avais aucun a priori avant cette table ronde, mais ça me rassure, c'est bien que des nouveaux outils. Et que les vraies questions, c'est les fondamentaux éducatifs, finalement. Et vous l'avez tous vraiment merveilleusement exposé, voilà. Et moi, je l'ai vachement bien interprété à mon profit.
Merci beaucoup, Michel. Je crois qu'on va conclure là-dessus. Donc, la question de les outils numériques, voilà, ils peuvent être utilisés dans des bonnes ou dans des mauvaises pédagogies. Il y a des bonnes et des bons et des mauvais pédagogues, quels que soient les outils utilisés. Le numérique n'est-il qu'un outil comme les autres ? Ou y a-t-il ce qu'on appelle des affordances, c'est-à-dire des façons d'utiliser l'outil qui sont provoquées par l'outil lui-même ? Voilà, il y a des recherches en cours sur ces thématiques. Le livret de Liffré sera peut-être une possibilité de continuer à explorer et à vous faire des retours sur ces thématiques. En tout cas, je voulais remercier vraiment beaucoup l'ensemble des intervenants, à la fois ceux qui se sont déplacés pour venir témoigner ici aujourd'hui, et puis Sylvain Genevoix qui a accepté d'intervenir à distance, donc dans des conditions techniques pas complètement optimales, puisque l'écoute était pas complètement optimale, mais on a vraiment apprécié cette intervention également. Et puis vous dire que je pense que le buffet nous attend pour ceux qui sont en présence ici à l'étage. Et Sylvain Genevoix, de toute façon, je reprendrai contact avec vous dans le cadre du livret.
D'accord, merci.
Merci beaucoup. Merci.